L'épluche livre.
Vous allez avoir droit à une recette exceptionnelle.
Inédite.
Que faut-il pour faire
Pas grand chose. Voilà, qu'on coupe en deux.
Bien propre.
Ici, ça va me servir d'épluchure.
Vous voyez, ce livre, il est beau. Il a une belle typographie. Il a une belle gueule. Les livres ont une belle gueule comme les gens.
C'est un peu comme une fleur, en fait. Hein. C'est plein de pétales qui sont en strates comme ça. Et il s'agit de venir gentiment les dégager.
Quand on lit des livres passionnants, ça devient même très passionnant.
Et je viens gratter, en fait, les premières couches comme ça.
Puis ce goût des mots, eh bien, il est resté en moi avec beaucoup de vivacité.
Et on referme le couvercle et on mange. Des cornichons, de la moutarde.
Quand je pense à tous les livres qu'il me reste à lire, j'ai la certitude d'être encore heureuse. Cette citation que j'ai faite mienne est tirée du journal de Jules Renard, célèbre auteur et dramaturge français. Si l'on part de ce postulat, le bonheur m'est donc promis. Le bonheur littéraire s'entend. Les joies de papier, les amitiés d'encre, notre univers et tant d'autres au creux des mains. Il est merveilleux, c'est vrai, de pouvoir laisser là ma vie pour un moment et de me fondre dans des aventures par-delà les océans et le temps. Les lecteurs sont donc des gens heureux, puisqu'ils ont trouvé le chemin du bonheur. Une question reste. Quels sont, concrètement, les bienfaits de la lecture?
Cache des carottes dans les champs de choux de la cousine Charlotte. Célestin change de chapeau car il est coquet comme un coquelicot.
Quels sont les bienfaits de la lecture? Pour nous aider à répondre à cette question, nous recevons aujourd'hui Inès Khalil, psychologue clinicienne et philosophe, spécialiste des enjeux narratifs et littéraires. Bonjour Madame Khalil.
Bonjour Daïdré.
Merci d'être au micro aujourd'hui. C'est très gentil à vous d'avoir accepté cette invitation.
Merci à vous.
Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours, vous présenter pour nos auditeurs?
Oui. Alors, comme vous le disiez, je suis psychologue clinicienne. J'ai également fait des études de philosophie et de psychanalyse, également de criminologie. J'ai toujours été passionnée par la lecture et par l'écriture. Et donc, j'ai commencé à écrire autour de mes 12 ans. Et puis, j'ai écrit une petite fiction à mes 15 ans. Mmh. Et puis, voilà, ça m'a accompagnée pendant toute mon adolescence jusqu'à l'âge adulte. Et j'ai publié du coup mon premier roman, Les fictions de Sacha Poulet, l'année dernière.
Mmh. Aux éditions Le Être Myriadis, c'est ça? Voilà. Ça s'est bien passé, la publication de ce roman?
Très bien, c'était une très belle aventure. J'ai également pu dessiner ma couverture, donc c'était, m'a permis de réunir deux passions, parce que je dessine également.
Voilà. Magnifique couverture. Comment vous vous positionnez vis-à-vis de la citation dont j'ai parlé en intro?
Eh bien écoutez, ça m'a fait penser à mon ressenti intime.
D'accord.
Puisque effectivement, la lecture pour moi c'est une amitié, c'est une hospitalité inconditionnelle. Mm-hmm. Puisque du coup, on peut traverser des mondes très divers et puis en même temps découvrir de l'étrangeté, c'est un accès à la liberté, je trouve. Et aussi, c'est autour du ralentissement. Quand on lit, on ralentit et donc on est aussi à l'écoute de sa propre vie psychique. Et donc je trouve que c'est une expérience très riche et qui accompagne du coup le devenir des individus. Voilà.
D'accord. Donc la lecture apporte beaucoup au lecteur. Vous venez d'en faire un petit panorama. Qu'est-ce que ça apporte aussi à l'auteur?
Alors, j'y travaille justement dans mon essai qui va sortir, Le pacte écrivain-lecteur. La question qui se pose, effectivement, c'est pourquoi l'auteur finit par livrer son livre, c'est-à-dire renoncer à l'infini des possibilités dans l'écriture. Hein, on peut tout écrire et on est dans une certaine toute-puissance à ce moment-là. Et qu'est-ce qui décide l'auteur à mettre fin à ce processus et à, et à quelque part perdre cette puissance et aussi subir du coup toute la réception du public qui est une étape complexe, eh bien, selon mes analyses, ce serait le fait de pouvoir avoir une relation avec le lecteur.
D'accord.
Et une relation qui est effectivement particulière parce que le lecteur n'est pas présent physiquement. Mmh. Donc c'est une relation affective, intellectuelle et qui aussi peut séparer plusieurs générations. Et donc c'est aussi dans l'idée de ce projet à venir, un lecteur à venir, que l'écrivain peut terminer son œuvre et la livrer.
Voilà. D'accord. Donc vous parliez d'apport relationnel. Donc les apports relationnels entre l'auteur, le lecteur, le pacte écrivain-lecteur, ça on en parlera peut-être dans une deuxième émission, la parution de votre ouvrage. Bon, ça m'intéresse énormément. Mais revenons donc du point de vue du lecteur, puisque nous parlons de la lecture. D'un point de vue relationnel, qu'est-ce que ça va apporter au lecteur, émotionnel, relationnel, intelligence émotionnelle, sociale? C'est ces axes-là qui m'interrogent.
Alors, c'est vrai qu'on a tendance à associer la lecture aux bienfaits intellectuels. Et effectivement, en fait, le livre est le support le plus adapté pour l'apprentissage. Donc, peut-être on en parlera tout à l'heure.
On peut dérouler comme ça vous va le mieux.
D'accord. Bah, très rapidement, du coup, par rapport aux avantages intellectuels qu'on connaît bien, mais après on viendra aux avantages relationnels. Alors, au niveau intellectuel, bon, déjà, la lecture rend les personnes plus intelligentes, développe leur QI verbal, leur permet d'améliorer leur langage significativement. Parce que du coup, à ce niveau-là, l'oralité a ses limites. Donc, c'est vraiment par la lecture qu'on va augmenter notre possibilité au niveau du langage.
On parle de la lecture même tout petit, c'est ça. Là, on démarre...
Exactement, exactement. Il y a une étude qui a montré qu'entre deux homologues socio-économiques, celui qui va lire va développer 15% de plus son langage, en fait, la richesse de son langage par rapport à son homologue qui lirait moins.
D'accord.
Et en fait, bon, déjà, tout commence par la lecture partagée. Hein. La lecture autonome, elle vient souvent de ces moments en famille où on se raconte des histoires. Mmh. Et les études montrent justement qu'il y a une corrélation entre les deux.
Okay.
Et après, du coup, au niveau intellectuel, comme je vous disais, donc, y a l'intérêt pour élargir les connaissances, l'intérêt orthographique. Tout simplement, en fait, pour développer tous les apprentissages. Et... ça développe également la créativité, puisque la créativité, c'est le maniement en fait, de nos connaissances. Et donc, plus on a de connaissances en arrière-fond, plus on peut créer quelque chose de nouveau, finalement. Voilà. Et donc, pour en venir, comme vous me demandiez, aux intérêts relationnels, sociaux. Alors, du coup, par la lecture, on rencontre des autres, des étrangers, du coup, qui sont différents de nous et qui vont nous livrer... sans enjeu, ça j'y insiste, ils vont nous livrer leur part intime, mais sans enjeu, c'est-à-dire qu'on n'est pas en cause, donc on ne risque rien sur le plan réel. Et le fait de ne rien risquer, ça nous permet d'être dans un accueil qui est très détendu et avec beaucoup d'ouverture. Et du coup, accueillir toute la parole d'un autre, c'est permettre de faire sien plein de vie qui sinon ne se livrerait pas à nous. Donc c'est un énorme enrichissement à ce niveau-là.
Et parce que accueillir la parole d'un autre quand elle est très différente, on part du principe donc que le lecteur va même lire ce qui lui déplaît, va avoir possibilité de lire des idées qu'il n'a pas.
Eh bien oui, dans la littérature en tout cas, en général, on a toujours plusieurs points de vue, plusieurs personnages qui sont en contradiction, qui se déchirent, et puis le lecteur lui-même se déchire des fois entre les différents points de vue, parce qu'il peut adhérer justement à différents points de vue. Après, bien sûr, on peut pousser ce procédé dans une version plus ironique et critique. Par exemple, Vladimir Nabokov, dans La Maîtrise, va mettre en avant un narrateur qui a fait un crime, mmh. et ce narrateur essaie sans cesse d'impliquer le lecteur et le déranger justement.
Donc il l'implique, c'est-à-dire ?
Ben, c'est-à-dire qu'il essaie de lui montrer qu'il est fier de ce qu'il a fait lui.
D'accord. Et il attend le regard, la validation de son lecteur, c'est
tout
ça ?
Tout à fait, tout à fait. Mais c'est assez ironique hein, chez Nabokov. Voilà. Mais,
et en tant que lectrice, donc, on arrive à valider ce... Ces actes, finalement
pas du tout, mais du coup, il y a tout un développé intellectuel autour de son crime. Et donc, tout simplement, ça nous pose question, ça nous interroge, ça nous permet de réfléchir, d'élargir nos horizons.
Oui. D'accord, ok. Voilà. Ok. Donc ça, c'est d'un... Donc on a vu les bienfaits personnels donc sur le développement du langage, sur le développement de la relation aussi à autrui. Au niveau de la société, est-ce qu'il y a des études, des bienfaits, des choses qui se mettent en place par la lecture, qui se mettraient pas en place sans la lecture ?
Eh bien, du coup, tout simplement, il y a une corrélation entre l'empathie et le volume de lecture. Donc lire nous rend empathique. Pendant l'enfance, l'empathie, elle se construit dans le regard de l'autre, dans l'interaction avec l'autre.
La différence entre empathie et sympathie, je me mélange toujours. Est-ce que vous pouvez nous le rappeler ? Pas vraiment ?
L'empathie, je définirais l'empathie comme le fait de pouvoir accueillir en soi une part de l'autre en la comprenant. Je différencierais la sympathie correspondrait plutôt à quelque chose de plus distant. Simplement, on apprécie quelque chose d'extérieur sans pour autant le comprendre.
D'accord.
On peut être empathique, par exemple, vis-à-vis de quelqu'un qui a fait quelque chose de grave, mm-hmm. par exemple, sans être sympathique.
D'accord. On apprécie pas forcément la personne, mais on peut comprendre.
En fait, ouais, voilà. On élargit nos capacités de compréhension avec la lecture.
Et en lecture, voilà, on comprend. Donc, c'est une vraie intelligence émotionnelle.
Tout à fait. Ouais. Eh bien, je voudrais bien citer Proust qui dit justement que lire déchaîne en nous pendant une heure tous les bonheurs et tous les malheurs possibles dont nous mettrions dans la vie des années à connaître quelques-uns. Et du coup, en fait, ça nous apporte une intelligence émotionnelle. Grâce au recul qu'on peut avoir et la mise à nu de tous ces personnages le support écrit est bien plus favorable à tout ça puisque c'est vraiment dans la lenteur et dans la profondeur qu'on va découvrir des personnages, on va découvrir vraiment leur vie psychique par rapport à par exemple un film où on ne peut pas accéder vraiment à cette profondeur et où en même temps on n'a pas la même activité puisque là, dans la lecture, on construit une représentation imaginaire. Mmh. On est obligé de se forger une représentation imaginaire alors que par exemple dans un film, du coup on a un contenu déjà visuel qui s'impose à nous. Mmh. Donc ce n'est pas la même activité.
Oui, une amie illustratrice dit régulièrement qu'en fait devant un livre, on hallucine finalement devant des signes. Est-ce que cette définition est bonne ?
Tout à fait. Et du coup, l'hallucination est spécifique à notre vie psychique. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on peut se sentir beaucoup plus actif et vivre notre subjectivité également dans la lecture, même si, bien sûr, on peut avoir l'impression ou le préjugé de se dire qu'il y a une certaine passivité, puisque quand on lit, on accueille la parole de l'autre. Et c'est là aussi qu'on peut faire le parallèle avec la dimension thérapeutique, puisque accueillir la parole de l'autre... C'est quelque chose en même temps indispensable en société et en même temps ça va vers le versant thérapeutique puisque c'est aussi un besoin qui est difficile à vivre.
Ça c'est très très intéressant. On va pouvoir développer un petit peu cette idée je pense après la pause musicale. Je vous laisse écouter chers auditeurs le titre choisi par notre invité.
Thank you.
Vous êtes sur L'Épluche Livre. Nous recevons aujourd'hui Inès Khalil qui nous parle des bienfaits de la lecture. C'est vous qui avez choisi cette chanson, Madame Khalil. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots ?
Oui, tout à fait. En fait, c'est un groupe que j'ai beaucoup écouté quand j'ai écrit les fictions de Sacha Poulet. À savoir que j'ai écrit ce texte en 3 semaines. Et du coup, il y avait des moments où j'écrivais en musique. Alors, pas tout le temps, mais ce groupe-là, justement, m'a beaucoup inspirée parce que la musique est une énergie aussi qu'on peut transformer en mots et vice-versa.
D'accord. Et en deux mots, de quoi parle votre texte ?
Alors, Les fictions de Sacha Poulet est un texte à deux voix. Du coup, d'un côté, il y a une narratrice un peu étrange qui sollicite son lecteur et lui raconte des anecdotes sur sa vie. Et de l'autre côté, il y a une histoire familiale, un drame familial qui se tisse autour de l'enfance, la mort, la question de la famille, de l'adolescence. Et ces deux histoires vont se rejoindre. Il y a pas mal d'énigmes qui se tissent au fur et à mesure de la lecture. Et enfin, c'est aussi l'histoire de celle qui aurait écrit le livre, qui se nomme Sacha Poulet, qu'on découvre à peine et qui va occuper les romans suivants. L'ensemble questionne le pacte écrivain-lecteur, puisque l'idée est de déstabiliser la situation narrative, justement parce qu'avec les livres suivants, il y aura d'autres niveaux de lecture qui vont troubler la position du lecteur, j'en dis pas plus.
Oui, mais c'est vrai que la narration est très très particulière dans ce roman et on est de suite happé dans ce...
Vous l'avez lu ?
Pas ton entier tout à fait, mais ma collègue l'a lu en entier, elle est allée au bout, elle m'a dit c'est très déstabilisant et les passages que j'en ai lus, en effet, en tant que lectrice, on ne sait pas bien à quelle sauce on va être mangé, entre guillemets. Là, pour le coup, vous disiez, on ne se met pas en danger en lisant réellement. Ben là, on se demande un petit peu. mais c'est très chouette, ça fait plaisir de voir émerger de nouvelles plumes et de nouvelles approches littéraires. Nous parlions un petit peu avant la pause, on a effleuré le sujet, des vertus thérapeutiques de la lecture. Est-ce que vous pouvez développer ?
Oui, tout à fait. Alors en fait, les individus, on vit dans une société, donc la société est pleine d'injonctions, même dans notre famille, plein de poids, des poids au niveau de ce qu'on nous demande de faire, ce qu'on nous demande d'être, ce qu'on nous demande de produire. Et la lecture, en fait, c'est une coupure par rapport à tout ça. C'est un moment où on peut être nous-mêmes, puisque personne ne nous regarde, entre guillemets, personne ne nous demande de porter des masques. Donc on peut être nous-mêmes, on peut se diriger vers les thèmes qui nous touchent, vers les auteurs qui intimement nous parlent, et être dans cette position écoutante. C'est une position qui se forge par rapport au texte, mais par rapport aussi à sa propre vie psychique, puisque faire le silence et écouter quelqu'un d'autre, c'est aussi apprendre à faire le silence et s'écouter soi-même, et s'inspirer également de tout ce qui se passe au niveau psychique dans le texte, pour se questionner soi-même autrement.
D'accord. Donc on est dans une écoute, mais on n'est pas dans une écoute attentiste, si je peux me permettre. On est plutôt... moi je sais que quand je suis trop fatiguée de lire, ça me demande trop de moi-même. Il y a quand même une activité, il y a une posture active du lecteur.
Oui, tout à fait. Et bien là, on pourrait faire peut-être une différence avec l'écoute thérapeutique selon un angle psychanalytique, puisque justement, l'écoute psychanalytique est basée sur l'attention flottante. Mmh. Donc justement, il faut écouter presque en rêvant. Et dans le texte, on peut rêver, mais il y a aussi cette part de lecture où il faut se concentrer sur les signes. Mmh. Donc là, c'est pas exactement la même chose. Et de toute façon, la cure psychanalytique fonctionne sur la présence du corps. Donc c'est pas la même activité, mais il y a vraiment des amitiés entre ces deux mondes, la psychanalyse et la littérature.
D'accord.
Avec la position du lecteur.
Vous parliez aussi de la lecture dans notre vie quotidienne. Est-ce qu'on peut parler d'un moment à soi, d'un moment où on prend le temps dans nos vies toujours plus enflammées, toujours plus rapides ?
Tout à fait. Eh bien, c'est rigolo. Le lecteur a une position, je vais presque dire antisociale, parce que justement, les activités sociales qui sont toujours plus nombreuses, les sollicitations qui sont toujours plus nombreuses, notamment avec la présence du numérique qui nous permet d'accéder à énormément d'informations mais qu'on ne peut pas forcément traiter activement, eh bien, le lecteur, lui, vient rompre ce déchaînement d'informations, vient couper cette sollicitation et il s'adonne à une activité qui est lente. Et cette lenteur lui permet, comme je disais tout à l'heure, de développer sa capacité de penser et sa capacité de se penser. Là, je m'inspire de ce que dit le psychanalyste Roland Gori dans une conférence tenue à Bordeaux en 2015. Il explique effectivement qu'avec l'accélération et l'injonction à l'accélération, on ne peut plus se penser et on vit dans une forme de traumatisme de la pensée.
On ne peut plus se penser.
Oui, on ne peut plus se penser, puisque se penser, ça demande de s'arrêter.
D'accord.
Et donc, ça demande également de faire appel à son vide.
Et oui.
Puisque,
et oui.
Tout simplement, la production de la pensée, elle demande du vide.
Elle demande du vide, demande du...
Un temps de jachère.
Temps, oui, d'accord.
Comme dirait Massoud Khan.
Ouais. Comme dirait
Massoud Khan,
qui est
psychanalyste.
D'accord, ok. Non, je ne
temps de jachère, il a théorisé le temps de jachère comme un espace vital pour la vie psychique.
Voilà. D'accord, important, donc à garder. Donc, en parlant justement des auteurs qui vous ont porté, sauf erreur, vous aviez un conseil de lecture à adresser à nos auditeurs.
Tout à fait, alors c'est un livre qui est à la fois très récent et je trouve très complet, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on est sensible quand même aux arguments qui sont basés sur des études. Alors, il n'y a pas que ça qui vaut, mais ce livre-là, du coup, donne beaucoup d'arguments. Donc, pour convaincre sur des sujets comme ça, je trouve que c'est utile. Donc, le livre, il s'agit du livre qui s'appelle « Faites-les lire ». Et il est de Michel Desmurger, qui est docteur en neurosciences. Il a reçu le Grand Prix 2024 du livre sur le cerveau de la revue Neurologique. Et donc, il montre comment la lecture peut devenir un pilier chez les enfants, à la fois pour les aptitudes intellectuelles, les compétences émotionnelles et les habiletés sociales. Voilà.
D'accord. Vous pouvez développer un petit peu sa théorie ?
Eh bien, tout simplement, il a décrit comment, dès l'enfance, d'abord avec la lecture partagée, puis ensuite avec la lecture autonome, la lecture accompagne le développement cognitif et affectif de la façon la plus optimale possible. Comme je le disais au début, c'est parce qu'à la fois c'est un support d'apprentissage le plus adapté, et en même temps, le fait de pouvoir lire et de recevoir l'histoire des autres nous permet de nous humaniser, nous permet de développer notre empathie, et tout ça se fait aussi dans le cadre familial et les interactions familiales qui soutiennent cette activité.
D'accord. La semaine dernière, à la librairie, j'ai eu une maman, ça m'arrive régulièrement, qui a découvert en fait que son enfant de quelques mois pouvait déjà avoir accès au livre. Mais c'était une vraie découverte pour elle. Elle a eu en atelier, en fait, organisé pour des enfants par quelqu'un qui présentait des livres. Donc c'est un enfant, bien sûr, qui ne lit pas à quelques mois. Mais est-ce que l'objet livre est important dès, finalement, la naissance ?
Tout à fait. Moi, j'insisterai beaucoup là-dessus, puisque... alors, nous sommes des êtres de langage. Et bien avant de naître, l'enfant entend parler de lui. On lui raconte des histoires après, quand il est tout petit. Et c'est très important parce que ça permet d'apporter, sur le plan de la relation parent-enfant et aussi au niveau des pères, ça permet d'apporter quelque chose de ludique. Et en même temps, ça apporte une enveloppe, puisque les histoires nous permettent de nous comprendre, de savoir où nous sommes, de nous situer. Et donc, l'enfant, bien qu'il ne comprenne pas encore le sens des mots, il reçoit les émotions qui sont sous-tendues par cette enveloppe-là. Et donc, c'est très important. Et d'ailleurs, bien que les parents reconnaissent que la lecture partagée est très importante et très agréable en famille, c'est vrai que c'est peu pratiqué. Et donc, il faut vraiment encourager cette pratique dès le plus jeune âge. Laisser aux enfants la possibilité de toucher les livres, d'y trouver du plaisir, raconter des histoires. Et après, l'investissement de l'enfant se fait tout naturellement. Il y a vraiment une corrélation entre la lecture partagée, c'est-à-dire le fait d'écouter l'histoire de quelqu'un d'autre, et puis la capacité après à lire soi-même et à développer des lectures plus complexes.
D'accord, très bien. Pour les auditeurs que ça intéresse et qui veulent un petit peu ouvrir leur connaissance à ce sujet, donc le Centre National du Livre a demandé, comme il le fait de manière bisannuelle, au cabinet Ipsos, donc, de publier le baromètre 2025, les Français et la lecture. Donc sur le site du CNL, vous allez avoir accès à cette étude complète, hein, qui est très très longue, mais aussi à une synthèse qui vous permet de pouvoir vous positionner par rapport aux habitudes de lecture des Français aujourd'hui. C'est hyper intéressant. On apprend entre autres qu'on lit beaucoup de romans, beaucoup de fiction, mais aussi énormément de bandes dessinées, de livres sur l'histoire, de livres pratiques. Et il y a différents focus suivant les genres littéraires et les pratiques de lecture que vous avez. Merci beaucoup Inès Khalil pour ce temps partagé.
Merci Daïdre.
Merci pour ces explications et je vous dis certainement donc à bientôt pour la présentation de votre ouvrage à paraître. Oui. Merci chers auditeurs, au revoir.
L'épluche livre.
Alors vous allez avoir droit à une recette exceptionnelle.
Inédite.
Que faut-il pour faire cette recette?
Pas grand-chose. Voilà, qu'on coupe en deux.
Bien propre.
Ici, ça va me servir d'épluchure.
Vous voyez, ce livre, il est beau. Il a une belle typographie. Il a une belle gueule. Les livres ont une belle gueule comme les gens.
C'est un peu comme une fleur, en fait. Hein. C'est plein de pétales qui sont en strates, comme ça. Et il s'agit de venir gentiment les dégager.
Quand on lit des livres passionnants, ça devient même très passionnant.
Et je viens gratter, en fait, les premières couches, comme ça.
Puis, ce goût des mots, eh bien, il est resté en moi avec beaucoup de vivacité.
Et on referme le couvercle et on mange des cornichons de la moutarde.